Bienvenue dans l'émission avec des images sur Radio Rectangle, le podcast qui parle de musique et d'images, dans lequel je discute durant une petite heure avec un invité qui travaille ou qui développe une activité qui, de près ou de loin, est en lien avec l'image et la musique. Ce mois-ci, je reçois Jean Fromageau, designer et chargé de communication au sein de Animal Records, un label parisien, mais aussi opérateur culinaire dans des lieux dédiés à la musique, il nous parlera de tout ça. Et je vais vous laisser découvrir ça, mais avant, pensez à vous abonner à la chaîne de Radio Rectangle pour suivre leur programme quotidien, ou alors uniquement à cette émission, c'est possible aussi, ou alors les deux, c'est encore mieux, en cherchant soit Radio Rectangle dans Apple Podcast, ou alors en cherchant Avec des images, toujours sur Apple Podcast. Ça nous aide et ça nous encourage à continuer à développer nos émissions du mieux possible. Voilà, je vous laisse avec Jean, c'est parti.
Radio Rectangle.
Bon, Jean, bonjour.
Bonjour Damien.
Bonjour, bienvenue dans l'émission avec des images. Donc c'est le nom de mon émission qui parle de musique et d'images. Et donc où j'invite des gens qui, comme toi, sont influents. Influence, c'est le bon mot.
Ça me fait mal. Ça me fait.
Ça te fait grossir le cœur.
Ça me fait grossir le cœur quand tu dis ça, mais ouais, je sais pas si je suis influent, mais.
En tout cas, ont leurs pieds et leurs mains dans la musique et dans l'image.
Ok.
Puisque tu es graphiste, si je ne m'abuse, et tu as aussi un label, donc ça, on y reviendra.
Oui.
Donc voilà, en gros, l'histoire de l'émission, elle s'est un peu improvisée dans le train parce que on est au-dessus de la maroquinerie dans tes bureaux, dans les bureaux de Animal Records, et du coup le. J'étais dans le train pour venir à la maroquinerie parce que ce soir il y a un super concert. Je sais pas si tu restes pour ce soir.
Non, malheureusement. Je vais au restaurant, mais on aimerait bien les voir, les Istrata.
Ouais.
On aimerait bien même les programmer à notre festival.
Ah oui, mais ça, peut-être qu'on ne peut pas le dire.
On peut pas le dire. Ouais. C'est top secret. Non, c'est pas top secret du tout. Mais...
D'accord. Et donc, voilà, du coup, tu as sauté sur mon tweet, si je puis dire.
J'ai hésité entre le tweet et le post Facebook. Je me suis dit sur lequel je saute. Et
voilà. Et donc, tu m'as invité cordialement à boire un café dans ton bureau et j'en ai profité pour rebondir et t'inviter dans mon podcast. Donc voilà, on en est là. Donc déjà, merci
de
m'inviter dans ce bureau. Donc,
toujours pas faire de café, malheureusement.
Bah, tu m'as dit qu'il y avait un peu de café tiède.
Oui, mais là, il a dû rechauffer.
Donc il a dû rechauffer. Alors, quoi d'autre ? Pour situer un peu l'histoire, Jean, nous, on se connaît depuis Lyon, où on s'était croisés à un apéro chez les Superscripts.
Exactement.
Avec. C'était la première
c'était
fois.
C'était pas un apéro, c'était. Tu faisais une
conférence.
Une conférence dans l'école juste en face, à Bellecour.
C'était là.
Pour plus de Admin Design.
Ah voilà, je faisais une conférence
avec
à Bellecour. Très
c'est
bien.
Ça. Ouais. Et après, on avait bu des canons, effectivement, avec les Superscripts.
Oui, c'était une conférence apéro.
Je crois qu'on avait bu des canons avant, t'avais fait le truc, on avait rebu des canons après.
Après, ouais. C'est ça. Et puis, on s'est recroisés, je pense, quand je suis venu à la maroquinerie en juin, parce que tu étais ici au-dessus, et t'as vu un de mes tweets, sans doute, et t'es descendu.
C'était, ouais, exactement. Voilà. Et on s'est loupé, je crois, à Dour, enfin, on s'est loupé. Moi, je t'ai vu, mais toi, tu ne m'as pas vu parce que j'étais dans la fosse, à Dour, quand vous jouiez avec Itanita.
Ah, on s'est vu, tu nous as vu cette année, mais on s'est pas
croisés. Mais c'était pas cette année, c'était l'année de la première année.
Ah ouais, donc c'était en 2015,
ouais,
je crois.
C'est ça, donc il y a 2 ans.
Cool. Donc voilà, ça c'est un peu les liens qui nous bondent.
Exactement, voilà.
Justement, raconte-moi un peu depuis Lyon et voire même avant, ton parcours, ton histoire et comment t'en es arrivé à faire des choses dans la musique et dans le graphisme et dans l'image. Ton parcours
un peu semé d'embûches.
C'est ça.
Moi j'ai un parcours un peu spécial. En gros, j'ai appris un peu tout seul en termes de design, etc. Donc j'ai postulé pour beaucoup d'écoles. J'étais admissible dans quelques-unes et puis il y a eu pas mal de loupés. Donc j'ai dû faire un chemin un peu de travers. Donc j'ai eu une licence d'art plastique à Aix-en-Provence. Et puis à un moment donné, je me suis dit que ça allait pas du tout, que ça me convenait pas, que je voulais pas faire preuve d'art plastique dans ma vie. Ce qui était un peu con, mais bref. Et du coup, je suis monté à Lyon, j'ai fait une licence de droit. Et puis de fil en aiguille, j'ai essayé de trouver un job pour payer mon loyer en plein été, puis j'ai atterri chez Zara France où je suis resté 5 ans.
D'accord.
Et où j'ai complètement arrêté toutes mes études à côté, donc je suis resté complètement à 100% pour Zara.
Mais tu bossais là-bas chez Zara dans quel département?
J'étais vendeur. Après j'étais au département, enfin en responsable caisse, etc. Mais je commençais vendeur, caissier, tout ce qu'il y a de plus simple quand tu arrives et que tu dis bonjour, je voudrais du travail s'il vous plaît, j'ai besoin de manger. Et ils m'ont dit oui, bien sûr, pas de problème, on a ça. Et donc voilà, ils m'ont filé un job, ils m'ont proposé de me garder, j'ai dit ok. Et puis, et à côté de ça, j'ai lancé un truc à Lyon qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs, parce que ça existe toujours, Écoute Prolongée, qui était un blog.
Ah oui, je me souviens, oui.
Qui était un blog musical où, où j'avais la prétention, en tout cas parce que j'étais tout seul à l'époque, de poster un son par jour, ou plusieurs d'ailleurs. Il n'y avait pas vraiment de règles, en tout cas vis-à-vis de du poste, mais en tout cas l'idée c'était de se dire ok les gars, je poste des sons qui me font kiffer et je vais essayer de faire une petite phrase, vraiment une phrase pour parler de ce morceau. Pas plus, pas moins, parce qu'aujourd'hui, de toute manière, on est dans un truc où on consomme de moins en moins de textes pour parler de musique. Ouais. Et du coup, j'ai essayé de faire des phrases très très courtes pour parler de sons qui me faisaient kiffer. Donc, ça pouvait être des gros albums de ouf, super connus, comme ça pouvait être des trucs complètement inconnus, des mecs qui avaient deux plays sur leur SoundCloud. Enfin, l'idée, c'était vraiment de poster tout ce que je... Un espèce de mood board
diguais.
Ouais, c'est ça, je diguais. En même temps, parfois, pas du tout, parce que genre, je peux passer un Radiohead. C'est tout ce du dig, quoi, genre, pour le coup. Et du coup, là, ça m'a un petit peu aidé avec Écoute Prolongée. Du coup, on a rebondi à droite à gauche à Lyon. Et on a fait pas mal de choses. Et du coup, ça m'a un peu aidé dans le domaine de la musique. Je me suis fait un premier gros réseau, en tout cas à Lyon.
Quand tu dis on, vous étiez
plusieurs. Alors, oui, après, du coup, bah, c'est ça. Donc, au début, on était vraiment sur un truc, un Tumblr avec du son, etc. Et puis, petit à petit, je me suis mis en colocation avec un cadreur. Il m'a dit ah, ça pourrait être pas mal de faire de la vidéo. Et du coup, on a commencé à faire des vidéos de Écoute Prolongée, donc qui étaient des podcasts qui sont toujours trouvables sur YouTube d'ailleurs. Si jamais tu.
Mais on mettra le lien.
Hein. Un soir de doute, tu dis tiens, j'ai envie de voir la gueule de ce gars. Ouais. Et du coup, on essayait en tout cas. Le format, c'était genre un peu long d'ailleurs, peut-être un peu trop long. On parlait de 3 albums. Un album qui venait de sortir. Donc une sortie assez fraîche, un Hot News, un album qui était pour moi un peu tombé dans l'oubliette, ou pour lequel on parlait pas assez, mais qui était pas du tout dans l'actualité. En fait, un truc un peu genre, on pouvait tomber sur... Moi j'avais parlé d'un truc Bochum ou Der Club of Girl. Ouais,
énorme, j'adore ce truc.
Mais moi j'avais vraiment parlé de leur EP, tu sais, qui était très jazzy. Ils en avaient fait...
Dolores ?
Ouais, c'est ça, je sais plus si c'est lui, je me souviens plus. Un truc où ils ont fait, où t'as vraiment l'impression que les mecs ils sont dans un espèce de trip, un peu dans un... dans un jazz club avec des gros cigares, du rhum, et puis genre, c'est assez ouf. Et en gros, on essayait de passer. Et puis la troisième partie du podcast, pardon, je m'égare. Donc, Hot News, un truc qu'on a un peu oublié, où on est un peu passé à côté. Et puis un truc, c'était plutôt de la spéculation sur un album qui allait sortir. Donc à l'époque, je fais du bruit, machin, je suis désolé. À l'époque, c'était à l'époque de la sortie de Daft Punk. Il y avait aussi Boards of Canada qui sortait son album là, dans le dernier, là, Tomorrow Harvest. Et du coup, l'idée c'était de se dire bon voilà, enfin Tomorrow Harvest c'était particulièrement cool parce que genre ils avaient créé toute une espèce de mythologie autour de la sortie de l'EP et tout ça, c'était génial, enfin de l'album. Mais Daft Punk par exemple, je disais bah voilà, moi j'attendais Daft Punk grave, je suis un énorme fan. Enfin, tu disais pourquoi t'attendais cet album, pourquoi tu l'attendais pas, ou pourquoi voilà. Ça, c'était la construction de base. On a fait de la vidéo, puis après, on a bossé avec Nuit Sonore un petit peu sur toute leur partie extra. On a monté un autre truc qui s'appelle le karaoké choral. Okay. Ou alors, c'est un karaoké où il n'y a pas de micro. On avait fait une première édition avec de la techno. Donc, en fait, les gens chantent de la techno. Ce qui existe toujours. Hein, genre, on fait toujours des karaokés techno à droite à gauche en France de temps en temps avec mon comparse Adrien.
Toujours sous le même nom.
Okay, toujours sous le même nom, karaoké choral. Ouais. En gros, on propose en général. Les gens, ils sont assez fans, friands de l'idée que ça. Qu'on chante de la techno parce que du coup ça chante pas, donc on met des onomatopées. En fait, les gens chantent des onomatopées. Donc, par exemple, un morceau de Todd Terrier, ça fait titouloutoui, 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 titouloutoui. Du coup, les gens chantent titouloutoui, titouloutoui.
Ah, ouais, je vois,
c'est assez drôle, mais on le fait pas mal. Ça fait kiffer les gens, c'est chambé. Et puis, nous, après, derrière, on propose aussi de faire tomber les micros et de chanter Macarena ensemble. Normalement, on a fait un Lyon aussi encore où on a fait du Damso et du PNL avec où on avait un micro pour 3 ou 4 personnes et les gens chantaient, il y avait un harmoniseur à l'intérieur, ça avait un espèce d'autotune, c'était assez marrant. Bref.
Okay.
Du coup, j'ai quitté Lyon à partir de là, il y a 2 ans. J'ai suivi mon chemin chez Zara, m'a proposé gentiment d'intégrer un autre service, un truc un peu plus bureautique. Donc je suis rentré là-dedans. Et
puis, c'est ça, donc toutes ces activités musicales-là, tu les faisais en parallèle.
Ouais, c'était annexe de tout ça, ouais. Et puis, à partir de ce moment-là, je commence à bosser avec un blog qui s'appelle Another Whiskey for Mr. Bukowski.
Ah ouais, je vois très bien avec Charles.
Ouais,
Charles.
Son vrai prénom qui ne veut pas.
Ah ouais, moi je le connais.
Il faudra le foutre au montage. Non. Ouais. Mais oui, mais non, mais tout le monde l'appelle Charles, mais c'est normal. Il
se fait appeler Charles.
Il se fait appeler Charles. Ouais. Je pense qu'il doit avoir un problème avec son prénom.
Je mettrai un bip sur son prénom.
Et du coup, moi je m'occupais du community management de ce truc-là. Et puis je venais d'arriver à Paris, donc je connaissais un peu pas grand monde. Et mon taf étant tout ce qu'il y a de plus assis dans un bureau, et j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, je me suis dit, ça va pas du tout, je vais partir en dépression nerveuse, il faut que je change de taf. Et à ce moment-là, Animal Records, du coup, a posté une annonce sur leur Facebook, en disant, coucou, on cherche quelqu'un pour faire de la cuisine, parce qu'on va ouvrir une cuisine, parce que nous, notre particularité, c'est de... Enfin, je t'en parlerai un peu après, j'imagine, mais genre, notre particularité, c'est d'allier la cuisine et le monde de la musique. C'est deux mondes.
D'accord. Qui sont... C'était une de mes prochaines questions, mais on y viendra plus tard.
On y viendra, donc on reste très vague. Et du coup, ils m'ont dit, on cherche quelqu'un pour la cuisine. J'ai fait, ah ouais, j'ai aucune expérience, je suis trop chaud, j'adore manger. Et faire à manger aussi. Ils m'ont dit, non, t'as pas d'expérience, merci, au revoir.
Dégage.
Et puis, ils ont reposté une annonce une semaine ou deux semaines après en disant, on cherche quelqu'un pour la communication. Là, j'ai fait, ah, par contre, là, je pense que j'ai beaucoup plus de chances de vous... Du coup, là, on a travaillé ensemble. On travaille ensemble depuis ce moment-là. C'était il y a deux ans, un peu moins de deux ans. Et j'ai rejoint l'équipe comme chargé de communication. Donc, je m'occupe de la com.
D'accord.
Et toute mon activité de graphiste... Alors, au début, c'était du kiff, essentiellement du kiff, où je faisais vraiment du travail pour moi. Et c'était vraiment... Je sais pas de travailler avec des gens. Et puis, en arrivant à Paris, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me lance. Donc, j'ai monté une structure qui s'appelle You're Welcome.
Ah oui, je me souviens aussi, tu m'en avais parlé.
Voilà, on a bossé sur l'identité visuelle d'un restaurant de Santiago Torrijos, qui est un restaurateur chef franco-colombien. Il y avait un resto à Paris qui s'appelait l'Atelier Rodier, donc c'est nous qui avons fait toute une identité visuelle.
Okay.
Et puis on bosse aussi pour un label en Australie qui s'appelle Saint O'Donnell, qui est aussi pareil, donc on a fait tout leur visuel, toutes leurs pochettes, etc. Et du coup, j'ai deux, trois petits... Enfin, c'est pas mon activité principale, en fait. Maintenant, aujourd'hui, je fais vraiment beaucoup de communication, mais il m'arrive encore de faire quelques travaux à côté de Saint O'Donnell, enfin, à côté de You're Welcome, quoi. Je vais lancer une espèce de série de posters en rapport avec des citations YouTube... qui n'a absolument pas marché, malheureusement, mais c'est pas grave. Mais genre, en gros, je reprenais des catchphrases un peu des épisodes de striptease et tout ça. Ouais. Un peu, voilà. Et du coup, je les mettais en poster et de la typo, etc. Bon.
Okay. C'est marrant que tu me parles de ça parce que en venant ici cet après-midi, j'ai trouvé par terre un DVD de striptease.
C'est vrai ?
Ouais.
Génial.
Ouais, à fond. Je te le donne, il est dans mon sac.
Ah bah, je suis trop chaud. Moi, je suis un grand, grand fan de striptease. Je pense que je les ai pas tous regardés. C'est ça qui me fait kiffer, c'est que je me dis des fois, genre. Il y en a encore que je n'ai pas.
Bah, regarde,
comment t'as pu trouver un truc comme ça? C'est une pépite. Et comment les gens peuvent jeter des mines d'or?
Bah, écoute, je sais pas. C'est le... Regarde, il est là. Oh, c'est Striptease volume 1 avec Monseigneur Vatican, Duel, Un amour de bronze, Patient un jour, Patient toujours. Voilà. Et en fait, il y a aucun des noms qui est dessus qui me disent quelque chose. Donc je pense que je les ai
non,
pas
vus. Non, et bah c'est génial.
Ben voilà.
Je pense que j'ai pas la... Waouh, mais c'est génial. Mais c'est un beau
cadeau. T'es trop content.
Mais je suis trop content.
Ah bah voilà.
En plus, je dois faire partie des 5% de la population mondiale qui ont encore un lecteur DVD chez eux. Et
en effet.
Là aussi, tu vois. Donc, donc je vais le lire avec plaisir. Putain, c'est trop cool. J'ai vraiment un énorme...
Et voilà, tu le jettes par terre. Voilà.
Je
suis trop content,
je le rangé, voilà, genre, non.
Attends, moi je voulais revenir sur 2-3 trucs. Donc, je me souviens à l'époque quand on s'était vu, donc tu me parlais déjà toutes ces activités musicales quand on s'était croisé chez Superscript.
Exactement.
Et je me souviens même que, en tout bien, tout honneur, tu voulais m'inviter dans ta camionnette. Est-ce que tu avais
un projet de camionnette, mais qu'on a fait.
C'était une balade en festival.
Exactement.
Ou je sais pas quoi. Ouais, ouais.
On a monté l'Extra Boom Car parce que c'était pour le festival Extra de Lyon, enfin de Nuit Sonore en l'occurrence. Nuit Sonore, du coup, ils ont le festival Nuit Sonore qui est très acté dans l'environnement urbain. Et autour de ça, il y a tout le festival Extra et le programme Extra qui est monté par plein d'associations de de Lyon ou d'ailleurs qui viennent d'ailleurs pour ils lancent un appel à projet au mois de décembre d'ailleurs en ce moment là. L'appel à projet extra va pas tarder à être lancé en janvier, je pense. Et en gros, il demande aux gens de proposer des idées un peu cool pour intégrer le programme de Nuit Sonore sous le programme extra, donc le parcours gratuit dans la ville. Et nous, on avait proposé du coup avec Écoute Prolongée, accompagné de Adrien, qui était réalisateur du projet, Julien, cadreur, Franck, et Sébastien, et Benjamin, conducteur du camping-car.
Benjamin
Galland, un jeune homme qui travaille aujourd'hui pour Jarring Effect, un label de musique la réputation n'est plus à faire. En gros, on avait proposé de monter une régie vidéo qui se baladait d'événement en événement, monter le live stream Facebook avant l'heure, je pense. C'est un peu marrant. Et en fait, en gros, on arrivait, on disait bonjour, on est l'Extra Bunker, on vient vous filmer, on fait 3-4 plans de tout ce qui se passe dans l'événement, on essaie de capter un peu l'ambiance générale du truc, etc. S'il y a un truc un peu sympa à faire, etc., on le met en vidéo, on rentre dans le camping-car, qu'on avait un peu réaménagé pour l'occasion, et là, il y avait Sébastien, du coup, mon meilleur ami, qui bosse aujourd'hui pour Super Bien. Qui montait directement la vidéo en direct.
Okay.
Pour que, idéalement, t'arrivais, et une heure plus tard, t'avais une vidéo YouTube de l'événement. Quoi. De 5-6 minutes, même pas 5 minutes, 2 minutes, 2-3 minutes, en fonction de l'événement et du potentiel chiant qu'il pouvait y avoir. Il y avait quand même des trucs qui étaient particulièrement chiants. Je donnerai pas de nom, mais je me souviens des expositions, t'arrivais, tu disais, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire genre. Mais c'est un truc très drôle d'ailleurs parce que genre c'était l'année où on avait fait ça avec Coup de Prolongée du coup. Seb et moi on est des énormes fans de Nine Inch Nails, genre vraiment des énormes fans, genre y a rien qui peut nous arrêter. Et le premier jour de Extra Bunker, ils jouaient à Paris, à Bercy, et on avait pris nos places depuis très très longtemps. Et on savait pas si Extra Bunker ça allait se faire, et du coup on est parti en plein milieu de la journée. Donc Seb qui était quand même le monteur du projet, et Wam qui était j'étais aussi un peu à la base du truc, donc on était quand même deux éléments assez importants. On avait laissé Adrien, Franck, Julien et Benjamin tout seuls sur le truc. Bon, ils avaient grave les épaules pour assurer le truc, ils étaient même beaucoup plus compétents que nous, mais on s'est barré, donc on a pris un train direct pour aller voir Nine. On a vu Nine, on a dormi 2 heures, on a repris un train le lendemain pour redescendre nos premières heures à Lyon. Et du coup, pendant ces moments-là, ils ont fait une interview de Sven Markart, je crois, qui est le physio du Berghain, qui venait faire une expo. C'était affreux parce qu'ils avaient fait des plans où ils parlaient comme ça, une voix très, très monotone, c'est affreux. Et à la fin, genre la chute du truc, c'est Adrien qui dit je sais pas, j'ai pas compris, moi j'ai pris espagnol en LV2, enfin genre c'est. T'as vraiment 2 minutes de truc où tu te fais. Bon voilà, c'était pour dire que parfois on avait vraiment des trucs et on n'avait rien à dire. Quoi.
C'est toujours trouvable sur YouTube.
Toujours. Ouais, Extra Bunker.
On mettra aussi le lien dans carrément. La description de l'épisode.
Ça nous avait vraiment fait kiffer de faire ça. Malheureusement, ça n'a pas eu le boom escompté, mais en même temps, c'était vraiment pour un micro public, genre des gens qui suivaient les extras et qui avaient envie de savoir ce qui se passait. Mais c'était chouette, c'était une super expérience. Faire 4 jours en camping-car avec ses potes. On n'a pas poussé le vice jusqu'à dormir dedans, malheureusement. On avait vraiment envie de le faire. On n'a pas pu le faire. Pour X ou Y raison, je crois que c'est parce qu'on n'avait pas de quoi le. En fait, on voulait le garer en ville à côté du lieu de nuit sonore et essayer de faire un espèce d'after un peu, machin. Et puis finalement, on se disait, après une journée à se lever à 7 du tous les matins. Nous, on faisait Nuit Sonore le soir en plus, donc on se couchait à 5, tu dormais 2 heures, tu te disais, j'ai pas du tout envie de me dire, on va se faire un after, ni quoi que ce soit dans ce truc-là. Donc finalement, on rentrait chez nous quand même dormir.
Ouais.
Mais c'était très charmé. Et ben, c'est dommage que tu ne sois pas passé, tu n'es pas venu.
Mais
pour plein de raisons, on avait Nico Pratt aussi qui devait passer, il n'est pas passé. Enfin, genre, heureusement qu'on n'a pas eu grand monde qui est monté dans ce camping-car, parce qu'en fait, on avait, je pense, un peu surestimé notre capacité à être à 6 endroits en même temps, alors qu'on n'était que 2.
Ouais.
Enfin, il y avait 2 présentateurs.
Oui, c'est ça. D'accord. Et alors, l'autre truc sur lequel je voulais revenir, c'est ton blog, enfin ton morceau quotidien. C'est ça que tu me disais tout à l'heure, avec Écoute Prolongée. Ouais. Et en fait, moi, ça me fascine un peu ça, parce que j'essaye toujours, enfin, je mets toujours des espèces de trucs où, allez, je vais poster ça ou ça, ou un par jour, ça va me prendre 5 minutes, ça va aller vite et tout ça. Mais tu tiens 15 jours après, t'abandonnes, ouais, quoi.
Et si tu te dis ça te prend 5 minutes et que tu multiplies par 365, ça te prend beaucoup de temps dans l'année, quoi.
Mais donc toi, est-ce que t'as réussi à garder, à aller au bout du challenge de poster un morceau ou un truc par
tous les jours? Ouais, j'ai réussi pendant. Ça me fait mal de dire ça, mais pendant un an.
Ah ouais. Bah, c'est super.
Mais c'est génial. À mais fond. Quand tu, et c'est bien pour ça que j'ai pas posé ma baseline en mode un morceau par jour, parce que je savais très bien qu'il y avait Anguille sous roche. Mais j'ai pendant un an, je pense que j'ai vraiment posté un morceau par jour, vraiment.
Ok.
Ça se voit d'ailleurs sur SoundCloud, j'avais fait des playlists écoute prolongée 2014, écoute prolongée 2015, 2016, etc. Et tu sens vraiment qu'en 2011, puisque c'est à ce moment-là que j'ai lancé le truc, il y avait vraiment 365 artistes, quoi. Genre, ouais. Aujourd'hui, des morceaux ont été supprimés sur SoundCloud, mais sinon, t'avais vraiment beaucoup de matière. Et puis, au fur et à mesure, tu vois les playlists qui font
200, grain,
150, et jusqu'à ce que je me retrouve avec 56 artistes et je me dise, ah ouais, j'en ai fait un par semaine et encore.
Ouais, mais en même temps, c'est lié au fait que, enfin, je pense hein, que tu, au début, t'as vraiment fait ça pour te créer une sorte de nom ou lancer ton truc. Et c'est puis, ça, ouais. Forcément, après, t'as des collaborations qui viennent, t'as des gens qui se disent, ouais, c'est pas mal ce que tu fais, mais donc t'as plus de taf et donc t'as moins le temps pour faire ça.
C'est ça, ouais.
Donc c'était une espèce de tremplin, donc finalement, c'est pas.
Mais je suis un énorme nostalgique, enfin, je rêve en fait que. Ce truc-là dont tu parles, effectivement, le fait qu'il y a plus de collaborations à droite à gauche et d'autres projets qui se mettent en.
Enfin, c'est grâce à ça, quoi.
Ça se rajoute à ça, en fait. Même ouais. Le problème, c'est que je me rends compte depuis quelques années que, en fait, ça ne se rajoute pas, ça prend plus de place par rapport au projet initial. Ouais. Et moi, j'adorerais qu'aujourd'hui, encore, tous les jours, tu ailles sur les fanpages d'écoute prolongée et que je te poste un son par jour. Ouais. Genre, techniquement, j'en suis capable, mais juste. C'est plus le cas, quoi. Je le fais plus, j'oublie, je pense pas, ou des fois, il y a des moments où j'ai des creux, hein, bref.
D'ailleurs, en parlant d'un son par jour, celui d'aujourd'hui, je t'ai demandé
de sortir un son
auquel tu as collaboré ou que toi-même t'aurais fait. Donc je sais pas ce que tu vas nous proposer. Alors, aujourd'hui,
je sais pas si j'ai vraiment collaboré à ça. Un son qui est assez important pour moi, c'était un groupe qui s'appelle Kenzie, un groupe de Brighton qui ont fait un EP là en 2016, fin 2016, qui s'appelle Sketches Early Summer. On peut le voir juste là. Peut-être les gens qui nous écoutent ne le voient pas, mais c'est le petit truc avec les fleurs là.
Le
vinyle là.
Ouais.
Très beau vinyle.
Très beau.
Et ils ont fait un morceau qui s'appelle March, le mois de mars, en anglais. Et pour le coup, j'ai pas vraiment collaboré à la l'élaboration de ce son, mais c'est moi qui en ai fait la relation presse. C'était mon premier projet vraiment avec mon taf. Et à chaque fois que je l'écoute, j'ai une espèce de frisson de fou parce qu'il est. Enfin, en fait, ça veut dire beaucoup de choses. En fait, ce groupe, ils sont adorables. C'est des petits Anglais qui sont tout sympas. Ils viennent de temps en temps en France, donc quand on retrouve des dates. Et ils sont arrivés. Je me souviens être arrivé avec le premier pour leur release party au Badaboom. Et donc, je fais salut les gars et tout. Ils me font, oh, it's nice to meet you, John. Et ils m'ont pris dans leurs bras en mode, c'est trop cool ce que t'as fait pour cette EP. Et genre, ça m'a fait extrêmement chaud au cœur. Genre, on a réussi à avoir une avant-première sur les un rock et tout ça. Enfin, c'était cool. Enfin, genre, on avait plein de petites choses, tu vois. Et du coup, c'est ce morceau-là, March, de Kenzie, de l'EP Sketches Early Summer, dont j'ai un peu collaboré à la sortie. Mais
t'as beaucoup collaboré, finalement. Moi, c'est grâce à toi qu'il a pu avoir une vie.
Ouais.
Et donc il est sorti sur Animal Records.
Records, ouais. Ouais. En 2016, okay. Novembre. Si mes souvenirs sont bons, je me souviens du sentiment, mais pas de la date.
Donc là, tu me parles d'Animal Youth. D'Animal Youth, non. D'Animal Youth, c'est un groupe belge.
Je connais pas.
Qui est en train de pas mal marcher.
Parce que du coup, tous les trucs qui commencent par Animal quelque chose, je les ai dans un coin de mon.
C'est ça.
Dans mon tweet deck.
Et ben, pour l'histoire, le bassiste d'Animal Youth, c'est aussi le bassiste de Annabelle Lee, qui est une des sorties de cette année sur mon label à moi.
Luc.
Luc, mais normalement c'est du flamand et ça se dit Loïc.
Loïc Records.
Voilà.
Moi je dis Luc, mais parce que je suis pas flamand du tout.
Mais oui, c'est pour ça. Ouais. Et en fait, Loïc ça veut dire Liège en flamand.
Ok.
Donc c'est ça l'idée du truc, c'est que j'ai appelé mon label du nom de ma ville, mais en flamand, pour montrer une sorte d'ouverture sur le monde.
C'est bien, c'est très cool. Je sens qu'il y a toujours un espèce de petit conflit.
Bah, en fait, non, le conflit, il existe que dans la tête des journalistes. Enfin, non, que de la part des journalistes ou des médias qui essayent de faire en sorte que... Enfin, moi, je le ressens comme ça. On joue énormément en Flandre et il y a énormément de Flamands qui viennent jouer chez nous. enfin, moi je ne sens pas vraiment cette petite guerre, elle n'est vraiment là que dans les médias.
Non, mais c'est important pour eux d'avoir un conflit, sinon ils n'ont rien à dire.
Oui, c'est enfin, ça. Ouais, c'est toujours pareil. Ouais, c'est toujours comme ça. Mais donc voilà, et là on en était sur Animal Records.
Ouais.
Et donc toi, tu as débarqué en, tu me dis, en 2016.
2016, avril 2016.
C'est ça.
Et 1er avril, je crois.
D'accord.
Étant donné que je fais pas mal de blagues, genre.
C'est peut-être pour ça. Ah oui, c'est sans doute pour ça. Et bah justement, moi, forcément, ça m'intéresse parce que je suis un peu dans la même position, mais de l'autre côté de la frontière, tu vois, l'histoire du label. Puis je sais que vous faites aussi du management, du booking.
Ouais.
Enfin, moi, je fais exactement pareil avec, avec Loïc. C'est que, voilà, sauf que moi, par exemple, je suis tout seul. Et vous, vous êtes 20?
Non.
En tout cas, sur le site, on dirait que vous êtes 20.
Mais... c'est parce qu'on est, très, très bon menteur. Non, ça. on n'est pas 20. Non, on essaie pas de mentir, mais la photo, en tout cas sur le site, on a l'impression qu'on est 20 parce que, effectivement, sur la photo, on est 20.
19, je crois.
Oui,
parce que j'ai compté.
Aujourd'hui on est du coup deux fois plus, je pense. Parce que en gros, dans l'histoire, pour faire un peu l'historique du label, il y a Paul, Jean, Antonin et Bart qui montent ce truc-là il y a 4 ans. C'est des potes d'enfance. Ils ont, pour une partie d'entre eux, étaient en colocation dans une ville à côté de Paris, là. Choisi le roi, ils ont monté un truc, ils se sont dit, bon, il est temps de monter notre propre label maintenant, on a tous des aspirations. Antonin, chef cuistot, Bart sort d'une école de commerce, et Jean et Paul sont plus dans le milieu de la musique, Paul bosse pour Énergie, Jean avait un parcours un peu plus de musicien. Et donc ils montent ce truc-là il y a 4 ans. Ils s'entourent de pas mal de monde. Donc la photo que tu as pu voir sur le site internet, c'est à ce moment-là où ils sont entourés de pas mal de groupes. Il y a Stenwise en l'occurrence, Bloom. Je crois qu'il doit y avoir les mecs de Kenzie aussi, je suis pas sûr, mais c'est pas impossible. En gros, ils sont pleins. Mais en réalité, nous, moi je rejoins l'équipe en 2016, en avril. Et Gauthier, donc, qui est un peu mon bro de 2016, en gros, genre, on a tous les deux rejoint la team. Aujourd'hui, ils sont plus 4, mais on est vraiment 6 membres de l'équipe en dur. On prend les décisions, etc. Tout ça. Donc Gauthier et Wom ont rejoint le truc en 2016. Et puis à côté, il y a la cuisine Animal Kitchen qui s'est ouverte. Donc il y a aussi du monde qui travaille en cuisine. Donc vraiment, tout est pour tout. On est une petite dizaine. Mais on n'est même pas 10. On est moins d'une dizaine. Après, avec tous les gens qui gravitent autour du projet, etc., on peut très vite monter à 30.
Ouais.
Mais en réalité, pour les gens qui se lèvent le matin pour se dire, genre, moi mon taf c'est Animal Records and Kitchen, il n'y en a que 10.
C'est ça. Mais donc, du coup, c'est tout un écosystème parce que vous faites des événements, vous faites du management, vous faites du booking, vous avez une cuisine.
Ouais.
Et c'est ça finalement qui fait que le label est viable. Parce que je sais à quel point c'est difficile de vivre de la musique.
Je ne sais pas qui peut vivre de la musique aujourd'hui. Si, il y a plein de gens. Mais en gros, ce qui nous fait vivre. C'est d'avoir cette activité culinaire à côté, clairement.
C'est ça, donc c'est un vrai resto, parce que ça, par contre, je ne l'ai pas vu en vrai, j'y suis pas allé, mais donc c'est un vrai resto qui est ouvert.
En gros, nous, on est cuisinier résident du Point Éphémère,
depuis
un peu moins de 2 ans. Tous les jours, tu vas au Point Éphémère, qu'il soit 18h ou qu'il soit midi, tu commandes un truc à manger, c'est nous qui sommes en cuisine derrière et qui le faisons. C'est même peut-être moi qui suis en cuisine, ça dépend des jours, mais c'est le jeu aussi, c'est que chacun d'entre nous va en cuisine n'importe quel moment, parce que c'est ça aussi, quoi. Le matin, tu peux envoyer des mails pour gérer la communication de ton festival, et le soir, te retrouver à couper des patates douces, enfin, on coupe pas de patates douces le soir, mais à cuisiner du guacamole ou du hummus ou des trucs comme ça. Donc, ça, c'est ça qui nous donne vraiment ce souffle d'air frais, un peu, cette bouffée d'air, en fait, la cuisine. Après, la musique. C'est toujours plus compliqué, en tout cas, elle est autosuffisante elle-même. Genre, nous, on est vraiment rattachés à la partie culinaire.
Ouais.
Pour tout ce qui est charge et tous ces trucs-là, tu vois, toutes les problématiques que ça peut poser d'avoir des employés sur une entreprise, on est tous rattachés à la cuisine. Et après, tous les bénéfices ou tout ce que peut engranger et tout ce qui peut tourner autour de la musique, c'est redistribué directement dans
le groupe. C'est ça. Donc en fait, on pourrait, juste en changeant le nom de, tu vois, ce groupe anglais un peu mythique des années 80 qui s'appelle Pop Will Eat Itself.
Ok.
C'est, ouais. La pop va se manger elle-même. Ici, c'est plutôt Pop Will Feed Itself.
Ouais, exactement.
Votre musique se donne à manger elle-même.
Exactement.
Avec les revenus que vous générez de votre musique, vous réengrangez de la nouvelle musique.
tout en étant une équipe derrière qui travaille sur le développement de ce truc-là, mais qui est complètement un petit peu hermétique, en fait. Genre, toutes les manières sont bonnes, enfin, toutes les lives et trucs comme ça, etc. Les DJ sets qu'on peut faire avec Animal Grooving Crew, enfin, tous... L'édition.
Et votre festival aussi, maintenant, vous avez un festival.
Alors, ça, c'est encore une structure, encore à part, mais qui elle aussi, du coup, est autosuffisante.
Mais c'est la même team.
C'est la même team, ouais.
D'accord.
Et enfin, dans la team de la Douve Blanche, il y a quand même. Enfin, nous, on a plus un côté de conseiller, en réalité, où on intervient à des moments avec Animal Records. Mais il y a quand même une équipe forte qui est composée de personnes, genre de Simon, par exemple, qui s'occupe de la technique. La maman de Paul, Marie-Sophie Frinier, qui, elle, est directrice du... Enfin, présidente de l'association, enfin, tu vois, donc... Il y a vraiment des têtes qui sont de ces Boulba, parce que c'est le nom de l'association, c'est Boulba, en honneur à ce fameux... comment on appelle ça esclavagiste de Star Wars.
Ah oui.
Celui qui hurle. Non, c'est pas lui, c'est celui, le pilote de Star Wars, le pilote de
oui,
le racer de
ouais, masque, c'est ça.
Celui qui se fait péter la gueule par Anakin dans La Menace Fantôme. voilà, c'est un hommage à ces Boulba. Je suis très étonné qu'on ait un hommage à Star Wars, mais j'en suis très content aussi. Mais du coup, voilà, le nom de l'association qui gère ça, c'est ces Boulba. Et nous, on intervient de temps en temps pour certaines parties.
D'accord. Et donc, du coup, l'autre question qui se pose d'elle-même, finalement, c'est comment, à un moment donné, les deux, apparemment, c'est les deux têtes pensantes de Animal Records, se sont dit, on va joindre la musique et la cuisine. C'est... Il y a une histoire derrière, ou alors c'est juste que c'était deux potes et
quatre potes. En fait, non, c'est très simple. Antonin, du coup... Lui a une formation de cuisinier de haute voltige. S'il écoute ce podcast, il sera content que je dise ça. En gros, il a fait l'école Ferrandi, qui est quand même une école mondialement connue et avec une renommée nationale très très forte, ne serait-ce que ça, et aussi internationale très très bonne. Il a fait ses classes dans certains restos du Pays Basque. Et après, il est parti en Australie, bosser avec un mec qui s'appelle Tsetsuya, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus de son nom de famille. Mais en gros, il a appris pas mal de choses de ce chef-là. Et il est revenu, il a ouvert un restaurant qui s'appelle Le Diable Vert, qui ensuite il a fermé. Il a participé à l'ouverture du restaurant qui s'appelle Le Mouchou, à Paris, où il était chef pendant plusieurs années. Et à partir du Mouchou qu'ils ont commencé à créer Animal Records and Kitchen. Et du coup, là, ils se sont dit, on a envie de créer un label de musique, tous ensemble, parce qu'ils sont tous mélomanes. Et certains sont même musiciens. Et Anto, il a dit, bah ok les gars, faisons les choses un peu plus, enfin essayons de trouver nos forces à côté, parce que des labels de musique à Paris, il y en a plein.
Ouais.
Par contre, des labels de musique qui ont dans leur équipe un chef cuistot qui est capable de gérer un menu de A à Z à l'assiette, s'il faut que les gens viennent s'asseoir, il y en a pas beaucoup. Donc en fait, ils ont monté ce label là tout autour en se disant genre, prenons un appui avec la cuisine pour avancer comme ça. Donc,
c'est ça.
Donc ils avaient la même envie musicale, et puis après Anto les a formés. Ils ont monté l'affiche d'une soirée qui s'appelle Hit the Band. On va refaire en janvier d'ailleurs, petite exclu.
Avec Bloom.
En gros, avec Bloom, Calypso Delia et moi je. Qui sont des groupes que tu ne connais peut-être pas.
Et donc le concept.
En gros, c'était chaque groupe arrive et dit bonjour. En tout cas, Antonin leur pose la question, qu'est-ce que vous êtes en termes de food ? Et du coup, chaque groupe disait, bah nous, voilà, on a fait une tournée, je sais pas, en Belgique, et on a kiffé
les carbonades flamandes.
Les carbonades flamandes, voilà, très bien, et bah ok, d'accord, Calypso Delia, c'est la carbonade flamande. Il va refaire une carbonade flamande sauce un peu Gérard, Antonin Gérard, qui va renommer Calypso Delia, et du coup, toi, t'arrives. Tu commandes, tu as trois plats à commander, soit le Bloom, soit le Calypso Delia, soit le Moi-Jeu, et tu prends celui que tu veux.
D'accord.
Et
en fait, il n'y a pas de concert, c'est une...
Et après, tu as un concert de chaque groupe. Donc en gros, tu vois le groupe jouer et tu manges le truc qu'ils ont voulu kiffer. Qu'ils ont kiffé. En l'occurrence, Bloom, je crois que c'était un énorme truc avec une omelette. Enfin, c'était un truc fatos. Très bon, hein. J'imagine qu'Antonin n'a pas sorti un truc de sa cuisine dégueu, mais j'étais pas là à l'époque. Mais en gros, voilà. Donc ça, c'était un concept de soirée. On avait les gourmandes. Où on essayait de créer autant une programmation musicale qu'une programmation culinaire. Donc Antonin imaginait les tapas au moment où Jean, qui lui, que tu as pu croiser tout à l'heure, qui lui est programmateur du label, faisait vraiment la programmation musicale. Donc en fait, il y avait ça, ça se renvoyait pas forcément la balle, mais en tout cas, il y avait deux programmations, tapas, musique. Ouais. Et du coup, tu viens, tu grignotes, c'était les dimanches. Okay. Voilà. Donc ils ont créé des événements comme As, et puis 2 ans après. Ouais, c'est ça. 2 ans après, on leur a proposé d'être résident à Point Éphémère. C'est là que j'interviens. Enfin, c'est là que je suis rentré dans l'équipe. Quoi. Mais au début, il n'y avait pas de cuisine. Au début, c'était vraiment genre, on fait des événements, Antonin avait sa cuisine à côté, et puis voilà. Et puis...
Donc déjà, fin 2015, c'était eux ?
Fin 2015.
Parce que moi, je pense que j'ai joué au Point Éphémère fin 2015, donc du coup, ils m'ont probablement fait à manger.
Non.
Non ?
Non. Ça dépend si c'était bon ou pas.
Oh, c'était super bon.
Non, si c'était pas bon, c'était non, pas. Je crois qu'on arrivait on arrivait en avril 2016.
D'accord.
Donc fin 2015, c'était pas nous. Okay. Si c'était peut-être les mecs de Urban.
Ok. Tac. Merci pour cette histoire de la nourriture et de la musique. Ouais, on va revenir un peu à l'image. On n'aura pas le temps de faire les deux, je crois, parce que le temps passe. Et puis finalement, c'est pas grave parce que tu racontes quand même des trucs qui sont super intéressants. Mais on passe au moment qui s'appelle ekphrasis. Ekphrasis, ça vient du latin, je ne sais pas quoi, ou du grec plutôt. Je suis con. Non, ça vient du grec. Et je vais décrire de la manière la plus précise possible une image que je ne connais probablement pas, mais que je t'ai demandé de montrer et qui t'a influencé dans ton rapport à l'image. Voilà. Donc je sais que tu m'as envoyé un lien, donc je vais le regarder et je vais.
Tu prends celui que tu veux ou
décrire ce que je veux, ce que je vois. De toute façon, je mettrai les deux parce que voilà. Okay. Et puis peut-être que les deux. Enfin, tu pourras peut-être un peu brièvement parler des deux, mais en tout cas, dis-moi s'il y en a une des deux que tu veux.
La deuxième, je l'aime bien. C'est vraiment la deuxième que pour laquelle j'ai un coup de cœur. Hein. C'est vous depuis très longtemps. Enfin.
Alors, il s'agit d'une affiche de Twin Peaks, puisqu'il y a écrit Twin Peaks en dessous. Et c'est un dessin du... j'ai oublié son nom, mais c'est le...
Dale Cooper.
Voilà, lui-même, avec une sorte de trou noir au milieu. En fait, je dois avouer que j'ai vu Twin Peaks il y a très longtemps, et que je me souviens pas de tout très très bien.
Ouais, ça c'est la saison 3, donc c'est un peu vrillé parce que
c'est
assez récent en fait, mais
ouais, OK, d'accord. Parce que j'ai pas toutes les références qui sont dessus. On voit une horloge qui est à 3h-7. Il y a deux triangles, il y a un point rouge en plein milieu, il y a le fameux, je sais pas, mais je pense qu'il est déjà présent dans les autres saisons, mais le rideau rouge. Mm-hmm. Et au milieu, c'est, je sais pas, une sorte de météorite avec un trou noir au milieu. Les yeux de l'inspecteur, il est inspecteur.
Ouais, il est ses agent yeux, du FBI, ouais.
Il est agent, ouais. Les yeux de l'agent sont brillent de mille feux. Il est bien coiffé et c'est un dessin. Donc c'est un dessin assez précis, genre comics américain. Voilà, et voilà, c'est... Vous pouvez aller voir l'image s'il y a vraiment des gens qui nous écoutent. Hein. Vous pouvez aller voir l'image dans la description, on mettra elle sera là. Et donc raconte-moi un peu pourquoi tu as choisi cette image en particulier.
Alors en gros, du coup effectivement c'est un petit truc de Dale Cooper. C'est surtout le jeune homme qui le réalise, qui s'appelle Chris Vector, enfin en tout cas qui se fait appeler Chris Vector sur internet. Quand j'étais
donc c'est pas une affiche officielle, c'est lui.
Non, c'est lui qui l'a fait, c'est un fan art.
D'accord.
Et il est très 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 bon, comme tu peux le voir.
Oui, tout à fait.
Et en gros, ce mec, un jour, je suis tombé quand j'étais un peu plus jeune sur, j'avais un compte donc sur DeviantArt, qui est un espèce de réseau social des gens qui aiment l'art, en tout cas qui se disent aimer l'art et qui en font un petit peu un peu numérique. Et je suis tombé par hasard sur une de ses créations et je me suis pris une claque énormissime, étant donné que moi je suis un gros fan de toute cette espèce de... Quand j'étais petit, je voulais être coloriste. D'accord. De bande dessinée, voilà. Ce que je ne suis absolument pas, du coup. Voilà. Et je suis un énorme fan de cel shading, ou de, en tout cas cette espèce de technique d'ombrage un peu triangulaire, très géométrique, etc. Et puis je suis tombé un jour sur ce truc-là, sur ce gars-là, Chris Vector, et je me suis rendu compte que ce mec-là faisait des trucs incroyables avec juste des formes. Parce que, en l'occurrence, si tu zoomes un peu, tu te rendrais compte que c'est que des formes, que du, alors là moins parce qu'il a, il a utilisé beaucoup de frames malheureusement, mais sinon c'est que des formes à la con, genre des ronds etc, puis des ronds de moins en moins précis, de moins en moins gros, avec des couleurs un peu de plus en plus foncées pour faire les ombrages etc. En gros le gars est extrêmement bon, et du coup j'ai choisi celle-là en l'occurrence parce que il y a tout cet imaginaire avec Twin Peaks, et je suis retombé sur son travail il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, je pense que ce mec, le jour où j'ai cliqué sur son lien, je me suis dit, c'est ça que je veux faire de ma vie.
C'est ça.
C'est vraiment ce type-là qui m'a... Moi, j'ai un énorme... Enfin, j'ai appris à lire avec Astérix, par exemple. J'ai pas du tout appris à lire avec Ratus et Gaffi. Je crois que c'était ça, le nom du petit truc. Mais genre, en gros, mon frère m'a filé Torgal et Astérix, et j'ai appris à lire avec ça. Et donc, du coup, j'ai un très gros... passé et passif avec tout ce qui est bande dessinée et comics, etc. Donc quand j'étais petit, j'étais fan de ça, et je comprenais pas comment on pouvait oublier dans la culture générale de tout le monde les comics, quoi. Ouais, et les BD, de manière générale. BD belge, BD française et tout ça. Et donc, quand je suis tombé sur ce mec-là, qui arrive à donner un côté un peu... animé, en tout cas comics, là sur cette image là c'est très présent pour le comics, mais un côté un peu dessiné à des images réelles, ça a été un choc pour moi, quoi. Je me suis dit, ok, d'accord, c'est possible, c'est ça que je veux faire de ma vie. Malheureusement, j'ai jamais réussi à être aussi bon que ce garçon. Ouais.
mais tu travailles une heure par jour pendant un an, tu y arriveras.
Du coup, c'est là-dedans que je me suis planché à fond. Genre, c'était vraiment, j'ai vu ça et je me suis dit, je veux être aussi bon. D'accord. Bon, il s'avère que lui, il est très 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 doué. Et avec cette image-là, et particulièrement en plus tout l'imaginaire Twin Peaks où je suis très 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 attaché. Donc voilà.
Et d'ailleurs, en parlant de décortiquer l'univers du comics et de la trame dont tu parles avec les points, tu as lu L'Art Invisible de Scott McCloud ?
Non.
C'est une sorte d'essai, donc c'est vraiment une sorte de mémoire ou d'essai sur la bande dessinée qui est écrite en bande dessinée. Et c'est cultissime parce que tu décodes vraiment tout, quoi. Et il explique vraiment tout de A à Z, comment fonctionne la BD, comment est-ce que... tu peux, enfin, le temps existe d'une case à l'autre, tu vois, où tu vois juste un personnage et puis tu le vois dans une autre position et t'inventes en fait tout ce qui s'est passé entre les deux cases. Ouais. Enfin, il décortique tout ça et c'est absolument dingue.
Ah, je suis trop chaud. Je pense
donc
que
je te filerai le lien. Enfin, je le mettrai de toute façon dans la description du podcast. Mais... ben, on va quand même passer vite fait en revue.
Sur l'autre.
Je vais pas la décrire, mais tu vas me dire aussi pourquoi celle-là finalement elle était très importante.
Bah, du coup. Tu la décris pas, ça, effectivement. Ça, c'est une affiche de Stephen. je pense que personne ne connaît Stephen, malheureusement, mais c'était un garçon. En gros, du coup, quand j'ai vu les premiers travaux de Chris Vector, je me suis dit, ok, d'accord, ce mec est génial. Et j'ai pas du tout envie d'être aussi doué. Enfin, j'ai envie d'être aussi doué, mais je peux pas partir de la même base. Et c'est à l'époque où j'ai commencé à lire des mangas. J'étais très très jeune. Et il y avait tout un délire avec les scans trad, et on récupérait les scans de Shonen Jump, donc qui est l'hebdomadaire, un magazine hebdomadaire où sortent tous les chapitres de mangas comme Bleach, One Piece, etc. Toutes les semaines, tu as
un
chapitre au Japon. Ouais. Donc en gros, pour faire un peu l'historique, le jeudi ou le mercredi, je crois, sortait Shonen Jump une fois par semaine. Il y avait des mecs qui étaient là, qui l'achetaient, qui le scannaient, qui envoyaient ça sur le web, et ensuite ça arrivait sur des plateformes un peu obscures, et nous on récupérait les scans, on les traitait sur Photoshop pour que c'est sur un papier un peu recyclé, ouais, marron, ça. Dégueulasse. Et nous on le scannait, enfin on récupérait le scan, pardon, on le traitait, on passait en noir et blanc, on gérait les opacités, les niveaux de gris, de machin, pour que ça soit du travail, pour que ça sorte du papier noir et blanc en fait.
C'est ça, ouais.
On refaisait même parfois les gris et les noirs, les profondeurs. Et moi, je m'occupais d'une team de Scatrand qui faisait ça. À côté, on avait des gens qui s'occupaient de la traduction. Donc, soit parfois, si on avait le luxe d'avoir une traductrice ou traducteur franco-japonais, on passait directement du Shonen Jump au français. Soit on attendait la traduction anglaise et après on traduisait depuis l'anglais. Et du coup, après, on refaisait des trucs pour que les fans incontestés qui ne pouvaient pas attendre la sortie du manga en France puissent suivre le lendemain, en tout cas 24 heures plus tard, ce qui se faisait.
Oui, donc c'est un peu comme ce qui se passe maintenant avec les séries.
Exactement.
Genre, le lendemain, tu as déjà le truc qui est disponible.
je trouve que les séries sont... Il y a beaucoup moins ce travail de traitement. Ouais. Nous, il y avait vraiment un travail de traitement d'image de ouf parce qu'on récupérait des images dégueulasses, quoi. Genre, je pourrais te retrouver des RAW de Shonen Jump. Enfin, genre, c'est scanné avec parfois des scanners dégueux. Et genre, c'est jaune, en fait. L'image est jaune. Et nous, on voulait la rendre noire et blanche, quoi. Donc, il y avait un gros travail
de RAW. Ouais, donc, t'étais pas simplement fan. T'étais vraiment super impliqué dans la communauté. Ouais, ouais.
Bah, je bossais pour un truc qui s'appelait la HNT Ayaku Naruto Trad. Ayaku qui veut dire « vite » en japonais. Ouais. Naruto, voilà. Naruto, manga.
Voilà. Je suis en plein dedans, Naruto, avec Netflix et tout. Là, je suis
c'est vrai c'est la meilleure série. Enfin, bref, moi, je suis un gros fan de Bleach. Pour le coup, ça, c'est une image de Bleach. Ouais. Et j'ai aussi bossé pour la BKT, Bankai Team. Bankai, qui est une espèce de pouvoir, ou en tout cas d'attaque spéciale de Bleach. Le Bankai, c'est un peu le truc que tu sors un peu.
C'est ça.
C'est
comme les dans Naruto, c'est comme les chakras, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors le Bankai, ouais, c'est ça, c'est un peu genre ton attaque spéciale, quoi. Genre mon Bankai, c'est voilà, c'est ça, et puis après tu peux aller un peu au-dessus, c'est un peu le Super Saiyan du Shinigami. Bref, et du coup bon, je bossais pas mal pour ça, et j'avais été finalement je gérais une équipe de personnes. Ce qui était assez bien foutu, parce qu'il y avait les cleaners qui s'occupaient de cleaner les pages, les éditeurs qui s'occupaient de prendre les textes, les intégrer dans les pages des gens qui l'avaient cleané, et puis après il y avait ceux qui s'occupaient de relire, et moi je m'occupais de temps en temps de récupérer une page un peu propre et de faire une colo par-dessus. Donc là, ce qu'on voit actuellement, c'est une colo. Donc ça m'a ouvert à ce monde un peu incroyable de la colo, où on part d'une image juste avec des lignes rapidement tracées, ou les contours du manga, et après où tu dois te dire, ok, moi je vais imaginer toute la suite, donc les muscles, les ombrages, les machins, etc. Et en fait, ce mec-là, Stephen, quand j'ai vu son taf, je me suis dit, ok, donc en fait, il existe des gens qui sont capables de se dire, juste avec des aplats d'un dessin noir et blanc, on peut aussi en sortir une espèce de dimension, enfin en tout cas de 3D ou en tout cas
de
perspective de tout ça, et c'était super important pour moi, son travail, parce que autant Chris Vector m'a fait prendre conscience que on pouvait passer du graphisme à, enfin, juste de tout ce qui est utilisé des logiciels comme Photoshop, Illustrator, etc., pour faire de la pub à la con, ou aussi mettre en avant, faire de la création pure et dure à 100%, et autant lui m'a fait prendre conscience qu'il y avait aussi on pouvait partir d'une base très simple qui était les lines, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça, du manga, et essayer de la sublimer avec la perspective, avec de l'ombrage, avec ceci, avec cela. Toutes ces parties-là, elles n'existent pas en réalité. Ouais, du coup, j'ai eu un gros travail d'anatomie.
Ben ouais, moi ça m'intéresse si tu retrouves des vieux scans, voir un peu le départ, voir un peu, parce que j'imaginais pas. En fait, maintenant, quand ils pensent, oui, c'est normal, mais j'imaginais pas qu'il y avait une équipe derrière qui pouvait se mettre en branle.
Centaines de personnes.
Ouais, c'est
dingue. Tout est fait bénévolement, c'est ça qui est incroyable. Ouais. T'as une communauté de fous. Moi, je sais que mes premières IRL, comme on appelle ça, là, c'était avec cette team de HNT, et genre, j'en ai des souvenirs incroyables. Là, bon. Enfin, genre, c'était génial, en réalité. Genre, t'as une équipe.
Super.
De mecs qui font ça pour le kiff, quoi. Et du coup, lui, ce mec-là m'a fait prendre conscience qu'il était temps de se regarder dans le miroir pour faire des choses bien. Parce pas parce qu'il faut se regarder parce qu'on est beau, mais juste parce que en fait, notre corps est aussi un sujet incroyable pour lequel il reflète de la lumière ou qui peut. Tu vois, et du coup, en voyant cette photo-là d'un mec complètement torse-poil, Ulquiorra.
T'as appris le dessin, quoi.
J'ai appris le dessin.
Ouais.
J'ai pris des cours de dessin très 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 tard par rapport à tout ça, je savais déjà où placer mes ombres, et mon prof m'a dit, mais vous avez déjà fait de l'anatomie? Je vais non, jamais, j'ai fait de la colo de manga.
J'ai fait de la colo de manga.
Il m'a expliqué de rire, il m'a dit, mais pas du tout, qu'est-ce que c'est, quel est le rapport? Et je lui ai montré mon taf, il m'a fait, ah mais oui, je comprends beaucoup mieux. Et oui, c'est cool.
Excellent.
Voilà.
Ben, merci pour les images.
De rien.
On en est où? Eh ben, je crois qu'on arrive doucement à la fin. Hein, puisque, bon, voilà. J'avais lu aussi une petite dans ta bio que tu es un petit astéroïde, une petite astéroïde de l'humour.
Ouais, c'est ça.
C'est un ou une astéroïde?
Je crois que c'est un astéroïde, mais on peut dire une, je crois. Je sais plus trop, je sais pas.
Et donc, tu as lu la question.
Ouais, est-ce que je peux pas un stand-up pour 2018?
T'as envie? C'est ton rêve.
Ouais, un peu. Mais ouais. Je sais pas si je peux me lancer sur ce terrain-là. Ouais. J'ai un copain qui fait. Qui, du coup, se roule plutôt bien sa bosse là-dedans. Il s'appelle Ivic, Mr. V. Il fait de la. Okay. Voilà. Lui est très très bon maintenant là-dedans. Mais oui, bien sûr, j'adorerais faire du stand-up. Ouais. Mais je peux pas. Je peux pas y consacrer trop de temps.
Non, mais c'était une petite introduction.
Mais c'était pas tant une question dans l'eau. Hein, genre, oui, c'est tout seul, un problème très important. J'adorerais faire du stand-up.
Mais je pense qu'on adorerait tous, en fait.
Je suis pas sûr. Ouais. Non, je pense qu'il y a plein de gens qui détesteraient ça, mais. Enfin, moi, ça me ferait kiffer depuis que, je sais pas, j'ai 5 ans. Genre,
Non, mais en même temps, je voulais. Vu qu'il y avait le côté Animal Kitchen, et puis j'ai vu dans ta bio le truc comique et tout, machin, ça me faisait penser au nouveau. Le nouveau podcast qui n'est pas encore sorti, mais qui sort mercredi. En fait, non, les gens ici qui vont écouter ce podcast-ci, ce sera pour janvier, donc ce sera déjà sorti. Donc on va faire comme si c'était déjà sorti.
Ouais.
C'est le nouveau podcast de Guillaume. Je sais pas si tu vois Guillaume.
Pantkid.
Ouais, Pantkid. Ouais. Son nouveau podcast qui s'appelle Bouffon.
Non.
Il va sortir sur Nouvelle Écoute.
Ok.
C'est une série de podcasts. Et où il va discuter avec des gens de la bouffe, quoi. Et donc c'est un hebdomadaire. Et donc
peut-être qu'on peut le contacter pour parler de bouffe avec Guillaume.
Exactement, parce que je pense que c'est ce qu'il va un peu chercher, c'est de voir des gens qui sont acteurs de la bouffe sur Paris ou ailleurs, et se faire une petite heure de podcast et discuter.
Chouette. Ça a l'air trop. Je suis ça avec.
Mais parce que lui aussi, en plus de ce podcast, il est, je pense, fort actif dans le milieu du stand-up.
Ouais, clairement.
Il a. C'est quoi son truc?
Le dimanche marrant.
Dimanche marrant, ouais. Ouais.
Je suis encore jamais allé, mais on m'a dit beaucoup de bien de. Ça rend pas mal l'huile. Non, en tout cas, on m'a dit beaucoup de bien de ses stand-up.
Yes. Donc voilà, c'était la petite cerise sur le gâteau de l'émission. On va clôturer doucement parce qu'on arrive à une petite heure d'émission, c'est bien. Est-ce qu'il y a des éléments ou des événements ou une actualité par rapport à toi, ton travail ou l'histoire du label ou un événement futur, genre la prochaine édition du festival, un truc dont tu as envie de ouais. partager ou tu as envie qu'on se rue sur...
Il faut se rouer. Non, là-bas, tu vois, juste avant ça, on était avec l'équipe, on était en train de faire notre séminaire de fin d'année.
Ah ouais.
C'est pas vraiment un séminaire, on a juste tous amené une gamelle de bouffe et on a fait à manger tous ensemble. Dans notre nouveau restaurant qui s'appelle l'EP7 qui ouvre début 2018. Donc je pense que quand ton podcast va sortir, on sera en plein dans l'ouverture normalement.
Okay.
Qui est juste à côté du MK2, donc on D'accord. va ouvrir un nouveau restaurant.
On est mi-janvier là.
Bah c'est ça, on est mi-janvier, donc en mi-janvier. On y est, c'est maintenant.
Ouais.
Normalement, on a dû avoir la commission de sécurité, donc on est déjà dans le dur.
D'accord, et donc ça s'appelle l'EP7.
EP7, ouais, EP7.
Ouais, ouais. Et c'est pour quel. Le nom vient d'où?
La parcelle de terrain.
Ah ouais, d'accord, ok.
Le logo était fait par Keyblind d'ailleurs, je ne sais jamais. Ah ouais. Autant très ouais. sympa. Avec Jérémy, je pense, et Martinez. Okay. Je sais pas si c'est lui qui l'a fait, mais en tout cas, c'est avec lui que je suis en contact. Et donc ça, c'est une des actus qui peut être très chouette. Un nouveau resto sur trois étages. Ouais. Premier étage, un truc un peu plus snacking, food de l'instant thé. On est en train de manger, on a une heure de pause déj et on est en resto, enfin on est au bureau, donc on ne sait pas quoi manger. On va au rez-de-chaussée de l'EP7. Par contre, si on a un peu plus de temps et qu'on a envie de manger un truc un peu quali, on peut aller au deuxième étage, troisième niveau, hop.
Hop.
Troisième niveau, c'est du restaurant à l'assiette, le chef Adrien Tran qui fait à manger tous les midis et tous les soirs, et là on a un truc un peu plus vénère. Voilà. Et le deuxième niveau, c'est une espèce de terrasse un peu ouverte, fermée sur le monde, qui est assez cool.
Ok. Attends, je t'ai coupé deux secondes, mais c'est aussi uniquement l'équipe de Animal Records ?
Non, là on est en session avec d'autres, d'autres structures, là c'est MAPA et la Caisse d'un éphémère. C'est même pas, c'est une société privée publique sur Paris qui fait de l'immobilier.
Ouais, d'accord.
Et Casan Éphémère, c'est ceux qui gèrent le point éphémère. Donc, ouais. nous, on est vraiment là en tant que prestataire food, nourriture. Ouais, donc, on vient apporter.
Vous êtes quand même un pilier central.
Ouais, oui, bien sûr, c'est un restaurant finalement. Ouais. Donc, oui, ça, c'est importable. D'accord. Mais il y aura aussi de la programmation musicale et des trucs comme ça, des petites. Live session, pourquoi pas du Titanita d'ailleurs sur le deuxième.
Peut-être, oui, quand tu manges ton assiette, un bon noise.
En gros, il y a un entresol un peu entre le rez-de-chaussée et le deuxième niveau. Donc il y a un premier niveau qui est un. qui est un espèce de parquet, qui est une terrasse complètement fermée, sauf une grande ouverture, en fait, tout en largeur, en fait, du coup, une grande véranda qui est ouverte sur le MK2. Donc, en fait, ça, tu peux fumer là, c'est un espèce de truc où tu as un bar extérieur qui est un peu plus chaud qu'une terrasse normale. Et là, on prévoit en été de faire des petites live sessions acoustiques et des trucs un peu vénères. Quoi. D'accord. Donc ça pourrait être chouette. Enfin, on sait pas encore ce qu'on peut faire vraiment, parce qu'on est encore dans les travaux, mais voilà. Ouais. Et puis sinon, bah non, 2018, de juillet 2018, on a la Douve Blanche.
Quatrième édition.
Et pas des moindres.
Toujours avec le festival. Toujours Ititanita.
D'accord. Hein, depuis la 16e fois. Ouais. Non, c'est quatrième. Non, non. Ben pourquoi pas. Moi, j'aimerais bien. On a un peu le loucher sur les Istrata, c'est cool parce qu'on commence à écouter du rock un peu plus fort que d'habitude. Mm-hmm. Je suis content. L'année dernière, on avait Burst of Joy qui a vraiment envoyé des gros pavés dans la gueule des gens. Ça, c'était cool. Enfin, c'est pas cool de se prendre des pavés dans la gueule, mais en tout cas d'avoir du rock un peu plus excité que de la pop gentille. Mais moi, je suis un peu trop loin de tout ça. Je suis plus dans le domaine du métal. Alors, du coup, j'ai du mal à... Des fois, j'ai envie que ça tape un peu plus fort. Ouais, 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 ouais. Et ouais, donc 6, 7 et 8 juillet.
D'accord.
Quatrième édition, toujours du Live and Food, festival 100% gastronomie et live musique. Donc on essaie de monter toujours un festival qui soit basé sur un restaurant éphémère, monté avec 4 chefs sélectionnés, qui imaginent une unique carte pour le festival, et après une programmation qui soit, voilà, qu'on puisse autant manger un poulet coco incroyable devant un concert de ouf, et se dire putain, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre, quoi, genre peut-être qu'il y a que maintenant que je peux le faire, je suis dans les douves d'un château médiéval, qu'est-ce qui se passe, bon allez, on va kiffer juste le temps d'eux, et puis voilà. Mais donc ça, c'est la grosse actu. Puis plein de petites choses. Non, on a pas mal de trucs. Moi, je me relance dans le podcast vidéo.
Ah oui.
Mais sans montrer ma gueule. En gros, j'ai lancé un nouveau concept qui s'appelle 90 secondes en musique. C'est-à-dire que pendant 1 minute 30, je parle d'un artiste, uniquement d'un artiste. Donc là, je me suis pas mis de pression en termes de son, de récurrence. Mais en gros, l'idée, c'est de le faire une fois par mois ou une fois tous les 30, ouais, une fois par mois, et en gros, je parle d'un artiste inconnu au bataillon. Pour le coup, là, c'est vraiment la base. C'est genre, c'est pas du tout connu, ouais. Et j'en parle, et je lui dis, hey, allez découvrir ce mec-là.
C'est déjà sorti ou...
Il y a un épisode qui est sorti, qui c'est sur Dima Ustinov.
Ouais.
Et là, je suis en train de travailler sur le deuxième. C'est que du truc.
Ah, attends, je sens que j'ai un numéro qui m'appelle.
Oui. Allô. Oui. Where I am? I'm in the maroquinerie and the office, you know. Okay? Okay? No problem. Okay, no problem. See you. Okay? 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 Okay, okay. Okay, okay. À toute.
Désolé. Pas de problème. Ouais. Eh ben voilà, je pense que là, comme on dit, it's a rap.
Ouais.
C'est un rap.
C'est un rap.
Merci beaucoup pour la petite heure passée ensemble et sur tout ce que tu nous as raconté.
Yes.
Et ben voilà, il y aura tous les liens dans la description du podcast. Et puis, je te souhaite alors du coup, puisqu'on est en janvier, une excellente année 2018.
Merci. Et puis, elle commence très bien.
Ben voilà, elle commence super bien.
Je mens un peu. Non, je sais pas, ça se trouve, je vais perdre une jambe dans 2 jours.
Ouais,
mais oui, mais toi aussi.
Et ben cool, merci.
J'espère qu'on pourra réussir à faire jouer Ititanita.
Et ben j'espère aussi.
Si nos calendriers le permettent.
On reviendra avec plaisir. Salut!
Bonjour!
Tu dis bonjour et au revoir au podcast?
Bonjour, au revoir!
Bonjour, au revoir!
Et donc télévision. Voilà, on a un invité surprise mystère. Il s'agit de
Manon Lafontaine
qui nous dit au revoir, bonjour, merci. Et merci de nous avoir écoutés. Et puis à la prochaine émission. Bisous!
Bisous, au revoir!
Merci Jean, bisous!
De rien, bisous!
Bisous!
Merci à toi, Damien!
Bisous!
Merci d'avoir écouté ce 10e épisode de Avec des images. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, pensez à vous abonner sur Apple Podcasts ou sur iTunes en cherchant Avec des images. Et puis vous pouvez m'aider à faire connaître le podcast en partageant la bonne nouvelle ou en donnant un avis sur Apple Podcast avec des étoiles, 5 par exemple. C'est une bonne moyenne. N'hésitez pas aussi à me glisser vos remarques ou vos questions sur Twitter ou sur Facebook. Ça me permet d'améliorer sans cesse ce podcast. Donc merci à tous et on se retrouve dans un mois. Bisous, salut !